Fred Film Radio, Cinéma du Réel, Paris, France.
Morgan Stampfer pour Fred Film Radio, en direct du Festival Cinéma du Réel, 36e édition, avec le réalisateur Mathieu Châtelier, qui nous présente « Sophie si peut-être », un documentaire dans le cadre de la compétition française du festival. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Avec votre documentaire, vous nous présentez des Ulysses modernes, des gens et des hommes réunis dans une communauté à Caen. Pourquoi avoir choisi cette communauté? Est-ce que c'est la proximité avec la mer qui vous permettait de filer la métaphore ulysséenne de votre documentaire?
Alors en fait, c'est une communauté qui est à Tailleville, dans la campagne cannaise, on va dire, à quelques kilomètres de la mer en effet. La communauté m'a donné carte blanche en fait, pour faire un film sur leur territoire, donc dans ce sous-bois où ils travaillent et où ils habitent. Pendant un an, j'ai côtoyé une quarantaine de compagnons en me disant que j'allais faire un film de portrait. J'ai avancé dans le tournage sans trop savoir ce que j'allais faire, ce que j'allais découvrir. C'était un moment pour moi, enfin dans mon travail, dans ma vie professionnelle, et de solitude, de grande solitude. Et finalement, ce tournage venait entre deux projets qui étaient au point mort, me donner comme une bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'enfin, je pouvais retrouver un geste de création, je pouvais retrouver un plaisir du tournage, du cadrage, de la rencontre. Et j'ai décidé de peu à peu d'en faire l'élément central du film. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une rencontre avec quelqu'un d'autre, un inconnu. C'était les seules paroles que j'ai changées dans ma journée, c'était avec ces compagnons-là. Donner la place à leur travail, à leur présence physique, à leur visage, d'écouter des silences, une gêne, une timidité mutuelle. Et voilà, le film est là-dessus, sur quelque chose de très, très ténu, très éphémère.
Je vais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que vous avez une façon très, très subtile et très pudique de filmer ces portraits. Dans la façon dont vous avez choisi de filmer donc ces personnes, c'est-à-dire qu'on les suit dans leur quotidien, dans leur travail, quand ils trient les vêtements récupérés, les meubles, le cuisinier également qu'on suit, et à chaque fois, en fait, on s'arrête. Il y a un instant avec du silence, quelque chose de très photographique. Pourquoi vous en êtes venu à utiliser ces séquences fixes et ces clichés, parce que vous prenez une photo à l'intérieur du film? Comment vous en êtes venu à choisir cette forme de mise en scène?
Mais j'avais envie d'apprendre d'eux et de les rencontrer, de les regarder avec une grande tendresse en fait, en leur montrant que j'étais pas là pour juste voler une image, mais que ça faisait partie d'une sorte d'un échange de présence et de douceur qu'on pouvait avoir. Du coup, par exemple, avec ce personnage qui tient la caisse là, qui s'appuie devant un hangar, qui prend la pose devant un hangar, c'est moi qui l'ai sollicité en disant voilà, mettez-vous dans cette lumière, ça va être très beau. Je voulais avoir un travail pictural avec eux. C'est-à-dire pas être juste dans je filme l'activité ou je filme un fonctionnement ou je trouvais qu'ils avaient une présence comme une présence théâtrale en fait, hein, comme si moi j'étais spectateur d'une scène de théâtre et que tout d'un coup rentrer en scène et entrer dans le faisceau d'un projecteur, et je voulais cette image-là, cette force-là. Je voulais les filmer en train d'attendre. Donc ce que je faisais souvent, c'est que je leur expliquais qu'on allait faire un portrait un peu long en silence. Je faisais semblant de régler mon appareil pour que, voilà, ils ne s'inquiètent pas, et ils attendaient que je sois prêt. Et quand finalement j'étais prêt, c'est que le plan avait été tourné, en fait, voilà.
Comment on arrive à gérer pas des acteurs, mais il y a ce rapport avec la mise en scène, un monsieur qui sort, qui met une veste et qui finalement s'en va. Il y a un côté très très théâtral, et savoir si le rapport à l'autre avait été un jeu.
En fait, par exemple, pour ces portraits, je leur disais, est-ce que ils étaient en train de travailler ou ils étaient sur une pause? Je disais, voilà, je voudrais faire un portrait de vous dans votre chambre. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Donc déjà, ça peut être un peu gênant pour eux. Et une fois intérieur, ceux qui acceptaient, parce que tous n'ont pas accepté, il fallait décider très vite de leur dire, voilà, asseyez-vous là. Il n'était pas question pour moi, par exemple. J'aurais pu avoir un travail où j'installais d'abord un éclairage. Donc ça, c'était hors de question. Donc il fallait agir d'une façon assez instinctive. Et par rapport à la pudeur, je respectais simplement, je pense, le désir de ces hommes de ne pas raconter un passé qui pouvait être douloureux et qu'ils n'avaient pas forcément envie de me confier. Donc il fallait que je trouve un moyen de faire ressentir ce par quoi ils avaient été atteints, ce qu'ils avaient traversé, mais sans forcément qu'une histoire soit précisément assignée à un personnage.
Donc vous parliez, c'est vrai que dans le documentaire, chaque compagnon vous fait visiter cet espace intime qui est la chambre. Et on se rend compte que les chambres sont en général remplies d'objets. On a un bric-à-brac énorme avec tous ces petits morceaux de vie. Vous accordez un rapport énorme à l'objet, c'est-à-dire que vous commencez votre documentaire avec des versets de l'Odyssée avec Ulysse. Et la première image, c'est un homme avec une valise. Est-ce que vous pourriez me parler justement de ce rapport à l'objet et surtout dans une communauté Emmaüs qui s'occupe de trier ces morceaux de souvenirs?
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ce qui est étonnant quand on entre simplement dans cet entrepôt, c'est qu'on retrouve des objets qui ont été des objets familiers 40 ans avant. Donc il y a quelque chose de où tout d'un coup des choses en fait ce qui a baigné notre passé et dont et auquel on a accordé peu d'importance finalement parce que c'est des objets usuels, la vie quotidienne qui n'avaient aucune valeur matérielle, tout d'un coup ça ressurgit comme si on s'apercevait que finalement c'est ça qui avait été le plus important. Ça me fascinait, c'est-à-dire que je me disais mais là il y a tout l'univers, mais en pièces détachées, en amoncelées sur des étagères, de mon enfance, des objets que j'ai vus chez mes grands-parents, chez mes parents quand ils étaient plus jeunes. Donc ça, c'est une première chose, et je pense que les compagnons sont là pour donner une seconde vie à ces objets. Et eux-mêmes trouvent une seconde vie ici, dans ce temps de refuge, en fait, hein, qui est celui du temps de la communauté Emmaüs. Après, le fait qu'ils aient des objets chez eux, je pense qu'il y a aussi une violence à être... C'est à la fois, ce lieu, c'est un refuge, un lieu où la douceur est permise en fait, mais c'est aussi une violence parce que c'est une vie collective. Il faut retrouver une singularité, retrouver un espace personnel, une intimité, et chacun reconstitue son petit univers personnel dans sa chambre avec à l'aide de ses objets justement.
Je vais rebondir sur l'idée de communauté, c'est-à-dire que vous filmez une communauté et dans votre documentaire il y a très peu d'images de groupe, c'est plein de petits portraits isolés. Et ce qui est intéressant, c'est justement la façon dont vous avez de lier tous ces portraits et les transformer en communauté. Est-ce que vous pourriez me parler justement de cette façon que vous avez de transformer toutes ces petites histoires isolées en quelque chose de commun ?
En fait, ce sont des histoires de rapport entre une personne qui filme et une personne qui accepte d'être regardée. Donc il y a quelque chose comme ça, d'une tension, du regard, de la... d'une séduction, d'une fascination, qui n'a lieu que quand le filmeur est seul avec un personnage, en fait. Quand il y a plusieurs personnages, quand il y a plusieurs compagnons, je redeviens un cinéaste qui filme... on est plus du côté du cinéaste qui filme la pauvreté. Je trouvais que ça pouvait aller pour des scènes de départ, mais comme le film, la dramaturgie du film, qui est très ténue, c'est sur une entrée en contact, une rencontre, plus tard dans le film, on n'a plus de scènes collectives, qui pour moi font que le spectateur redevient un observateur. Je voulais vraiment qu'on rentre en contact avec les gens. Mais je l'ai éprouvé aussi au moment du tournage, où quand j'étais seul avec un compagnon, on était obligé de se parler. Et quand ils étaient à nouveau en groupe, automatiquement le groupe se refermait, puisque moi je ne suis pas compagnon, et que voilà, il n'y a plus de rencontre en fait. Il y a juste une observation. Et alors, du coup, c'est beaucoup le son, les objets, qui fait communauté, plutôt qu'en effet le cadre qui engloberait les compagnons tous ensemble, quoi.
Je vais reparler un petit peu de la notion de voyage avec ce titre, sauf ici peut-être, qui est quand même très révélateur de ce qui peut se passer dans ces communautés et de ces Ulysse qui cherchent finalement plus qu'un refuge, une maison, avec cette idée de vraiment être chez soi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu le titre ?
Le titre est tiré d'un moment de récit en voix off où on parle de quelqu'un qui n'a plus trouvé de place. Donc sous-entendu dans le monde extérieur, comme le disent les compagnons, sauf ici peut-être, sauf dans cette communauté. Avec ce sauf qui peut être entendu avec deux significations, sain et sauf, ou excepté ici peut-être. Donc voilà, j'aimais bien ce titre un peu compliqué pour une situation qui l'est un petit peu, quoi. Aussi, j'aime bien être du côté du maladroit, de la maladresse, redouiller dans mes questions, enfin, et je trouvais que ce titre était aussi comme ça, quoi.
Et comment ont réagi les personnes que vous avez filmées à la projection de votre documentaire, sauf ici peut-être ?
Ils ont été très touchés, La plupart, enfin, ceux qui sont venus me voir étaient très contents du film. Et il y en a un, justement, qui me parlait de cette mise en scène, dans le moment où il y a ce personnage qui s'occupe des habits. Donc je le suis dans son activité, il me raconte ce qu'il fait, tout en bougeant dans le cadre. Pendant 5-6 minutes, je le suis. Et à un moment, je lui pose la question de pourquoi il est venu dans notre communauté. Et il me dit, c'est parce que j'avais perdu mes parents, et puis il s'éloigne, et puis il dit, mais ça c'est un secret. J'ai eu cette intuition au tournage de me dire, bon, là j'arrête de le suivre, puisque c'est un secret, il faut qu'il puisse sortir du cadre, s'échapper de ce regard braqué sur lui. Après la projection, il est venu me voir, en me disant, t'as vu là, je dis, c'est un secret, et puis hop, je sors du cadre. Et j'ai trouvé ça très très bien, parce que j'avais l'impression qu'il s'était approprié, c'est comme si c'était lui qui avait mis en scène ce moment de cinéma direct. Je trouvais justement, donc du coup, il était sans doute juste parce que il avait, en tant que spectateur, décidé de le faire sien, quoi. Donc ça, c'était quelque chose d'assez drôle pour moi.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. J'étais en compagnie du réalisateur Mathieu Châtelier, qui présente Sophie peut-être, un documentaire de 65 minutes où nous croisons le regard de ces Ulysses modernes. C'était Morgan Stampfer en direct du Festival Cinéma du Réel, 36e édition, pour Fred Film Radio.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.